نسرين دحمون غسوا سماتان ماتر فاطمة الزهراء بن براهم افوكات اي شيرشور ان دروا دو ليستوار نسرين اي سون انفيتي ابورد سماتان لو بروجي دو لوا بور لا كريمناليزاسيون دو لا كولونيزاسيون فرانسيز ان الجيري كي سورا بريزونتي سو سامدي ا لاسامبلي بوبولار ناسيونال.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Une joie de vous recevoir aujourd'hui, Maître Fatma Zahra Ben Braham, avocate et chercheur en droit de l'histoire. Aujourd'hui, il y a un événement majeur de l'histoire de l'Algérie. Un projet de loi qui vise à criminaliser la colonisation française sera présenté au Parlement algérien, Maître. C'est dire l'importance de l'enjeu.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai qualifié cet événement comme le second après l'indépendance de l'Algérie, car la colonisation, si elle s'est arrêtée en 62, il faut dire que la colonisation est un acte matériel qui a commencé en 1830 et qui se termine en 1962 par l'indépendance de l'Algérie. Cependant, il ne faut pas croire que la France a ramassé ses bagages et est rentrée très gentiment en demandant pardon. Mmh. Pas du tout. La France s'est maintenue en Algérie par un phénomène extrêmement grave et pernicieux, c'est la pensée coloniale. Et la pensée coloniale, c'est quoi ? Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est, parce que c'est quelque chose qui ne se sent pas, qui ne se voit pas, mais qui nous pénètre comme un véritable poison. C'est une politique qui n'est pas accompagnée d'une violence et d'armes comme se fait la colonisation, mais c'est une colonisation par la pensée.
C'est beaucoup plus pernicieux.
Mais bien sûr, et beaucoup plus grave, parce que ça maintient l'emprise coloniale dans une société nouvellement indépendante, une population qui sort de 132 ans d'exploitation et de colonisation et de maintien sous la botte française, moi je le dis comme ça, et ils savent très bien que bien qu'il y ait une maturation chez les politiques qui ont fait donc la révolution, elle n'existe pas dans le reste de la société, parce que la paupérisation, l'analphabétisme, tout ça, ont maintenu la société algérienne dans un carcan qui fait que la France pensait tenir entre ses mains toute la population contre le gouvernement naissant de l'Algérie. Oui. Et donc c'était une pression, comme je dis, qui n'avait pas de couleur, qui n'avait pas d'odeur, mais qui avait un impact sur l'esprit de l'Algérien. De telle sorte que le français va toujours maintenir sa suprématie par rapport à l'Algérien, et l'Algérien va toujours penser que le français c'est le plus fort, c'est le plus intelligent, c'est celui qui apporte la civilisation peut-être et bien d'autres choses. Donc c'est une stratégie qui s'est développée dès 1962 et qui se maintient jusqu'à ce jour.
En fait, nous sommes dans une nouvelle ère qui est de mettre la colonisation française face aux crimes commis. Dans le projet de loi, on parle de crimes d'État.
Oui, tout à fait. Alors, avant cela, il y a une étape qui est importante, c'est ce qu'on appelle le négationnisme. Mmh. La France a voulu ignorer et laisser dans l'ignorance les Algériens pour tous les crimes qu'elle a commis. Mmh. Elle ne veut pas les reconnaître, elle n'en parle pas. Et c'est grâce aux chercheurs et au travail que nous faisons que nous avons réussi à dépoussiérer certains dossiers et arriver au cœur du crime colonial.
Un travail que vous faites depuis 20 ans, hein.
Oui,
plus de 20 ans.
Plus, tout à fait. Donc, aujourd'hui, la France considère que l'Algérien ne doit pas comprendre, ne doit pas savoir, il ne doit surtout pas se défendre. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est de vouloir tout simplement faire croire à l'Algérien que la France, comme ils le disent, est venue le civiliser et que la civilisation, c'est elle qui a c'est la France qui a apporté la civilisation aux Algériens. Et vous constatez maintenant que certains politiques, qui pour moi ne sont rien d'autre que des politicards, Politicards parce qu'ils n'ont même pas pris le soin de lire ne serait-ce qu'un seul livre d'histoire écrit par leurs propres Français, qu'ils soient généraux, qu'ils soient chercheurs ou autre chose, et ils viennent faire des gorges chaudes dans les plateaux de télé en disant que l'Algérie n'était rien et nous l'avons construite.
En fait, ils parlent des bienfaits de la colonisation.
C'est ça, les bienfaits de la colonisation. Mais ne s'arrêtant pas là, et pour faire croire, enfin, pour qu'ils croient eux-mêmes, hein, parce que c'est un mirage pour moi, eh bien, ils n'ont rien trouvé d'autre à faire que de créer une loi. Une loi qui s'appelle « Les bienfaits de la colonisation ». C'est toujours en rapport avec l'esprit colonial. Ouais. Cette loi est en 2005. Mais pour rappeler aux Algériens, vous voyez, vous étiez rien et nous sommes tout. On a fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui. Or, les chercheurs, aujourd'hui et demain, ont prouvé que la France a détruit l'Algérie. Elle ne l'a pas construite.
À ce propos, vous aviez fait un travail sur cela avec l'instance qui était en charge de montrer les crimes carrément contre l'humanité, hein, on peut le dire. Et même dans ce projet de loi, tous les crimes, pratiquement tous les crimes commis par l'occupation française en 132 ans ont été répertoriés. C'est une réponse à ceux qui parlent des bienfaits de la colonisation. On ne parle pas uniquement de la spoliation des terres, on parle également des viols. On parle de la spoliation des biens, on parle des essais nucléaires, c'était plus des essais nucléaires mais des explosions.
Nous avons prouvé ça. Oui.
Voilà, les départs forcés, les kidnappings et j'en passe encore. C'est une réponse à ces gens-là, Maître Ben Brahim ?
Oui, c'est tout à fait une réponse. Vous avez bien dit tout à l'heure que ce travail est un travail de longue haleine. Et moi, en fait, après 20 années de recherche, de travail, d'organisation avec des chercheurs qui sont avec moi dans l'instance, parce que au moment où la France a commencé à parler de l'histoire d'Algérie, la bafouer, essayer de la cacher, etc., on avait créé l'instance algérienne de lutte contre la pensée coloniale. Et nous avons agi, nous avons travaillé sur les archives. On a dit que on ne peut pas connaître notre histoire si vous nous avez pris les archives. D'abord les archives qui existaient avant la colonisation et les archives qui sont un bien commun entre l'Algérie et la France que vous avez maintenu dans vos armoires et vous nous avez empêché de les consulter. Ils ont même créé une loi sur les archives qui donnait un certain âge pour pouvoir dévoiler certains crimes ou certains, disons, dossiers. Ils appelaient ça beaucoup plus dossiers. Et donc en 2005, quand il y a eu ce texte sur les bienfaits de la colonisation qui a fait énormément de bruit, et ici en Algérie, nous nous sommes vraiment rébellés contre ce texte et nous avons fait un très grand nombre de conférences, nous avons été plus profonds des choses, nous avons apporté des preuves, des photos, des déclarations, pas seulement en Algérie, mais on les a ramenés des États-Unis, de la Yougoslavie, de la Russie, enfin on a été un petit peu comme des fourmis à travers le monde pour récupérer ce que nous pouvions récupérer comme preuve et les mettre face aux colonisateurs. Donc nous avons dit, puisque vous êtes en train de parler des bienfaits de la colonisation, eh bien nous allons vous créer un texte.
Preuve
et
à l'appui.
Oui, et nous allons considérer que la colonisation est un chapelet de crimes. Et donc on a créé l'instance de lutte contre la pensée coloniale et nous avons initié un texte. À l'époque, le texte était parti de mon cabinet. J'avais un représentant avec les médias qui s'appelait Ahmed Ben Saïd, que tout le monde connaît et à qui je rends hommage parce que malheureusement il est décédé. Nous avons fabriqué un petit texte dans mon cabinet avec certains historiens, chercheurs, penseurs, etc. Et nous l'avons soumis à un député qui était Moussa Abdi. Moussa Abdi est un fils de Shahid. Il était dans le FLN et quand on lui a soumis le texte qu'il devait soumettre à la PN, il était très content. Et les députés de l'époque ont adopté ce texte à plus de la majorité et donc le texte pouvait passer sans passer par les rouages. Malheureusement, ce texte est allé donc dans les tiroirs du gouvernement et peut-être que les circonstances de l'époque ne permettaient pas. Donc, il n'a pas vu le jour. Mais nous avons continué quand même, entre 2005 et 2025, à dépoussiérer d'autres crimes, à les faire connaître à notre société, à les faire connaître au monde. Parce que, entre-temps, moi, je sais que pendant une vingtaine d'années, j'ai sillonné un petit peu le monde, où j'ai fait des conférences, où j'ai récupéré des documents, où j'ai tissé des alliances avec les étrangers, pas spécialement les Français, les étrangers, européens, l'Amérique du Sud, africains, etc. Et donc, la question du colonialisme et du crime colonial a commencé à éclater au jour, preuve à l'appui. Avec ça, ma spécialité, qui est le droit de l'histoire, me permettait d'aller vers les textes de droit français qui, par exemple, en 1956, avait autorisé la torture systématique, alors que la torture est un crime et un crime interdit. Donc, vous voyez, quand vous voyez un pays qui se dit pays des libertés et je
des
ne
droits
sais plus
de
quoi, oui, mais quand on vous fait un texte qui passe par le pouvoir législatif, c'est-à-dire la PN, etc., enfin l'Assemblée française, et qui approuve le crime de torture, c'est très grave. Donc, on avait fait ce petit travail. À l'époque, il y avait 42 articles. Et puis, on a attendu. On a attendu longtemps. Alors, il n'y a pas très longtemps, M. Bourali, qui est président de l'Assemblée
populaire nationale.
Oui, nous en avions discuté. Et je lui ai dit, écoutez, si on pouvait refaire revenir ce texte et, dans les circonstances actuelles, l'approuver, ce serait une richesse extraordinaire et une très bonne riposte. Il a été extraordinaire, effectivement. On lui a donné ce que nous avions déjà préparé. Monsieur Abdi, je pense qu'il a été reçu par lui. Et il lui a donné également le texte. Et là, il a juré qu'il ne laisserait pas une goutte de sang de nos Algériens passer comme ça dans l'oubli et qu'il fallait faire quelque chose. Et moi, je suis très, 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 très heureuse de voir ce texte aboutir sur la table de l'Assemblée populaire nationale.
Alors, on va continuer les discussions juste après le sommaire de l'actualité. À 8h30, on vous retrouve juste après.
Tout de suite, c'est la deuxième partie de l'invité du jour. Nasrine Dahmoun reçoit depuis 8h15 maître Fatema Zahra Ben Brahim. Nasrine et son invité abordent le sujet ou l'actualité, bien entendu, qui est le projet de loi pour la criminalisation de la colonisation française en Algérie et qui sera présenté ce samedi à l'Assemblée populaire nationale.
Et on va continuer de détailler le texte avec vous, maître Ben Brahim, puisque le texte le précise, il faut que la France reconnaisse aujourd'hui les crimes de guerre et reconnaisse également officiellement ces crimes et présente ses excuses.
Oui, alors, pas seulement des excuses. Nous l'obligeons à reconnaître ces crimes, parce que la reconnaissance de ces crimes est de portée internationale. Le monde entier saura ce qu'a fait la France en Algérie. Et je peux vous dire que beaucoup de pays ne savent pas ce que la France a fait en Algérie. J'ouvre une parenthèse, lorsque j'ai fait ma conférence au Sénat pour les explosions atomiques, les ministres de la Défense qui étaient présents et les représentants des pays qui avaient donc la bombe atomique, etc., étaient étonnés. Parce que la France n'avait jamais déclaré que le crime qu'elle avait commis dans le Sahara algérien était un crime extraordinaire. Et de plus, c'est un crime continu, puisque jusqu'à présent, les gens continuent à mourir et on ne trouve pas de solution à ces problèmes. Mieux encore, aller jusqu'à enfuir les déchets et refuser de nous donner l'emplacement, c'est un petit peu continuer la politique de la terre brûlée en Algérie. Donc, les crimes qu'il y a sur le texte sont des crimes que nous avons travaillés, étudiés, cherchés, expliqués dans plusieurs pays, et surtout en Algérie, ce qui a suscité cet esprit nationaliste et cet esprit de curiosité, où maintenant même les enfants ils disent « Tata Ben Brahim, la France a fait ça en Algérie, vous êtes sûr ?» Oui, oui, elle a fait pire. Et les enfants sont en train de comprendre. D'ailleurs, ça déjoue la politique de Sarkozy. Parce que Sarkozy, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « On ne touche pas à la mémoire, ce n'est pas tellement important. On va attendre que ce que nous appelons nous révolutionnaires, il dira à lui, ceux qui nous ont affrontés dans une guerre coloniale meurent. » Et nous allons établir des relations avec leurs enfants. Et bien son calcul était faux. Parce que les enfants connaissent aujourd'hui l'histoire de leur peuple et n'accepteront jamais, au grand jamais, de se taire ou d'ignorer cette période.
C'est pour ça que vous mettez le point sur quelque chose de très important, la préservation de la mémoire collective.
Mais bien sûr.
Il faut valoriser notre histoire et continuer à la raconter aux générations futures, à nos enfants. Il en est question dans le projet de loi. Ce n'est pas uniquement pour la symbolique, c'est pour qu'on n'oublie jamais et qu'on se construise également dans notre identité.
Et c'est également une façon d'expliquer la mémoire. Parce que pour la France, qu'est-ce qu'ils disent ? Oui, la mémoire, nous sommes d'accord. Mais l'oubli doit accompagner la mémoire. Or, nous, on dit, la mémoire, nous sommes d'accord. Mais sans l'oubli. Vous voyez qu'il y a une divergence de vue.
Va conditionner également nos relations avec eux.
Mais bien sûr. Pour eux, on va parler de la mémoire, et vous dites, c'est un fonds de commerce, etc. Mais eux travaillent cette mémoire qu'ils veulent nous imposer dans le cadre de l'esprit colonial. Ils veulent la travailler et nous maintenir dans ce carcan. Or, nous, on dit, oui, on peut discuter de la mémoire. Et on doit discuter de la mémoire. Le fait mémoriel est important. Mais sans oublier ce que vous avez fait. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est des crimes contre l'humanité. Et aujourd'hui, sur le plan légal, ils sont tout à fait encerclés dans leur mental, parce qu'ils ont l'air d'oublier qu'il y a un statut de Rome du 17 juillet 98 qui a été signé. Ils ont signé
eux-mêmes.
Voilà, donc maintenant, il est effectif à leur égard.
Alors on rappelle que le statut de Rome criminalise certains crimes coloniaux et qu'il n'y a pas de prescription dans ces crimes.
C'est ça les deux points importants. D'abord, c'est la définition du crime contre l'humanité. Puis l'énumération des crimes contre l'humanité, quand on va vers la lecture de ce texte et l'énumération, eh bien on va s'apercevoir, les expériences sur les humains existent, le viol existe, la torture existe, tout existe. Donc le traité de Rome nous est très favorable, nous pays qui avons subi la colonisation. Mais il ajoute quelque chose, il dit que ce crime est imprescriptible, ce qui veut dire à notre sens, nous pays victimes, que ce crime, dès qu'on le découvre, eh bien, il devient d'actualité.
Et passible de peine.
Voilà, et passible de peine. Les Français vous disent, font une autre lecture. Ils disent, non. Ce texte, on ne peut lui donner une vie qu'à partir de 98.
Oui,
mais alors il faudrait que ce texte soit explicitement dit que ce texte ne prendra effet pour les crimes contre l'humanité qu'à partir de 98. Et la notion d'imprescriptibilité tombe. Mais comme elle existe, on dit ces crimes sont imprescriptibles, donc ces crimes resteront, ils sont impunis pour l'instant, et nous demandons une punition de ces crimes. Et c'est là où on bascule dans ce qu'on appelle le crime d'État.
On continue avec ce projet de loi, Maître Bembalahem. Il y a également un point très essentiel, celui du fait de faire l'apologie de la colonisation. Oui. C'est passible de peine.
Oui.
Il faut arrêter. Enfin, il faut que certaines personnes arrêtent de faire l'apologie des crimes de la colonisation déjà, de manière générale. Et ça, c'est important d'en parler.
Alors, c'est très important. Déjà, l'apologie du crime, c'est puni par le code pénal, que ce soit chez nous ou chez eux. D'accord. D'ailleurs, Osarès, quand il a été poursuivi, il a été poursuivi justement pour cette notion, ce crime apologie. Du crime colonial. Je referme la parenthèse. L'apologie du crime, c'est toujours dans la lancée de l'esprit colonial.
Absolument.
Donc, quand on tue quelqu'un et on dit, il a mérité, c'est pour la France que nous l'avons tué, je suis désolée, moi je suis une Algérienne, je suis victime selon le droit, donc j'ai ma position juridique et je ne vous permets pas de dire que vous nous avez tués parce qu'on le méritait ou parce que c'était ça qu'il fallait pour nous.
Ou alors que c'était conjoncturel puisque c'était la guerre.
Et encore. Notion de guerre, on la débattra une autre fois.
Inch'Allah.
Nous n'avons pas fait de guerre. Nous avons fait une résistance, puis une révolution populaire armée. C'est différent contre une puissance coloniale. Eux nous ont fait la guerre, mais pas nous. Donc il faudrait d'abord qu'ils se remettent dans leurs chaussures et que nous gardons les nôtres.
Il y a un autre point sur lequel la France insiste beaucoup, c'est les harkis.
Oui.
C'est des traîtres à la nation.
Tout à
fait. Ils nous ont trahis et pourtant la France insiste sur ce point-là.
Bon, alors je suis contente de vous entendre me poser cette question. En 2001, La France a érigé la première stèle au nom des harkis qui ont rendu service à la France ou qui sont morts pour la France. Et moi d'ailleurs j'ai réglé un problème une fois pour les gens qui viennent récupérer, les Algériens, les enfants de harkis qui venaient récupérer les terres de leur grand-père, etc., laissées en Algérie. Bien, j'ai été très amusée parce qu'en voyant cette stèle, je trouve le nom de leur ancêtre. Et à partir de la photographie, etc., je vais devant le tribunal et procès avec les domaines. Je dis non, c'est un harki, il a perdu tous ses droits. Les harkis ont choisi. Ils ont choisi leur camp. Et ils ont fait beaucoup de crimes sur les Algériens. C'est leur choix. Moi, je respecte leur choix. Tu as voulu suivre la France, tant mieux pour toi. Que grand bien t'en fasse. Cependant, la France les a méprisés.
Elle les a abandonnés également.
Les a ignorés. Les a terrorisés, les a maintenus dans la famine, dans l'ignorance, dans la pauvreté. Mieux encore, dans des camps qui n'avaient pas l'apparence de camps, mais des camps entourés de barbelés. Alors, qu'ont-ils gagné? Ils ont dû attendre des années et des années qu'entre leurs enfants ou leurs petits-enfants ont grandi, par exemple, comme ceux qui sont actuellement dans le gouvernement, parce que presque tous sont des enfants ou petits-enfants de Harki, pour qu'on puisse leur donner quelques petits droits, simplement. Donc, les Harkis sont libres, mais qu'on ne m'impose pas à moi d'accepter un Harki qui a tué dans ce pays, qui a prêté allégeance à une puissance coloniale qui nous a tués, qui a
massacré.
Fait un programme d'extermination parfois. Programme d'extermination des Algériens, eh bien, ils ont leur politique, qu'ils s'occupent de leur pays, et nous avons la nôtre, et on s'occupe du nôtre. Donc, les Harkis, c'est une question à part, c'est leur problème, qu'ils fassent ce qu'ils veulent d'eux, ça ne nous regarde pas, mais qu'ils ne nous imposent pas leur point de vue, ni leur politique à cet égard.
Un autre point sur lequel on doit insister, et puis sur lequel il ne faut pas qu'on nous impose quoi que ce soit, c'est les biens vacants.
Bien sûr, ça c'est un gros sujet. C'est un très gros sujet qui, depuis 1964, continue à produire ses émules.
Alors, il en est question d'ailleurs, excusez-moi, dans le projet de loi.
Oui, tout à fait.
Les choses sont précisées.
On en a parlé déjà à l'époque. Alors, les accords d'Évian ont été très clairs. Concernant les biens des Français en Algérie. D'abord, ce n'est pas les biens des Français, ce sont les biens de nos ancêtres qu'ils ont pris et qu'ils veulent nous faire croire qu'ils sont à eux. Donc, on n'a fait que récupérer nos biens. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Mais restons sur le plan juridique. Les accords d'Évian ont été très clairs. Et ces accords entre l'État français et le GPR algérien, donc l'État algérien naissant. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans ce texte? Il est dit que les Français qui résidaient ici, c'est-à-dire les pieds noirs, sont libres, soit de prendre la nationalité algérienne, au cas où ils deviennent algériens et donc respecter les règles de droit algérien. Ou alors ils restent français et l'État algérien les protège en Algérie. Je pense qu'ils ne trouveront jamais ça ailleurs et c'est le seul texte à travers le monde qui donne à chacun son droit dans ce pays indépendant. Le deuxième point, l'Algérie a permis aux Français qui sont partis en 62. Parce que les Français qui sont partis en 62, ce ne sont pas les gens du FLN, ce n'est pas l'Algérie qui les a chassés, c'est l'OAS qui leur a dit « Attention, le cercueil ou la valise ». Ce n'est pas les Algériens qui leur ont dit ça, c'est l'OAS. Et donc, ils les ont tellement terrorisés qu'ils sont tous partis.
Ce n'est pas l'Algérie.
Non. L'Algérie a été beaucoup plus souple parce qu'elle leur a attribué entre 2 et 3 ans. S'ils voulaient revenir en Algérie, ils pouvaient le faire. Et il y a certains qui sont revenus et qui bénéficient de leurs biens jusqu'à présent.
Et qui sont protégés par la loi algérienne.
Et qui sont protégés, qui sont respectés, etc. Le président de l'association des pieds noirs d'Algérie, c'est Monsieur Serra qui se trouve à Saouili. Et donc, il protège les droits des Français, il a d'excellentes relations avec l'État algérien. Alors, pendant cette période, les Français pouvaient revenir et récupérer leurs biens le plus normalement du monde. Mais passé ce délai, nous n'étions pas les gardiens de leurs biens, entre guillemets.
Absolument.
Nous avons besoin de récupérer tout ce qui se positionnée sur notre territoire. Et après le délai de 3 ans, est rentrée en vigueur la loi sur les biens vacants. On a déclaré ces biens vacants. Et si on les a déclarés vacants, ils seront automatiquement versés dans le patrimoine de l'État algérien, donc les domaines privés et publics de l'État. Donc ils peuvent absolument rien nous dire, nous avons respecté nos droits et aujourd'hui ils ne sont pas habilités à venir demander quoi que ce soit chez nous.
On continue avec ce projet de loi maître parce qu'il y a un autre point, c'est vraiment très enrichissant d'en parler. C'est le fait qu'il faut aujourd'hui également pénaliser toute atteinte au symbole de la révolution du 1er novembre, de la lutte du peuple algérien, du mouvement national algérien. On n'y touche pas, tout simplement.
Tout à fait. Alors, je vous dis tout de suite que cet aspect, on ne l'avait pas vu venir il y a 20 ans. Mmh. Mais vu les critiques et vu les insultes que nous subissons, et d'ailleurs, je remercie la sagesse politique. Nous n'avons jamais insulté la France, malgré ce qui est en train de se passer. Nous n'avons jamais critiqué. Nous avons défendu nos droits. Et ça, c'est un droit légitime. Mmh. Je crois que nous sommes assez bien élevés et que notre religion nous empêche et nous interdit d'insulter quiconque. Et c'est bien la position que nous avons donc adoptée. Le président de la République répond à une politique étrangère. Mais le peuple algérien n'a jamais insulté, n'a jamais critiqué. Nous avons tout décrypté, nous avons tout compris. Nous répondons par ce genre de loi. Effectivement, et moi je trouve ça magnifique, si aujourd'hui, que ce soit un Algérien ici en Algérie, s'amuse à insulter à travers les médias, à travers des moyens, enfin des supports médiatiques ou des supports écrits, etc., il se met à insulter notre pays, notre mémoire, nos shuhada,
notre lutte,
nos emblèmes, etc., je suis désolée, mais celui-là, on ne le laissera pas passer. J'ai pris tout à l'heure le cas d'Ossarès, il a été traduit dans son pays pour avoir dit « nous avons commis des crimes en Algérie ». Vous voyez, qu'est-ce qu'on lui dit ? Apologie du crime. Et on le punit pour ça. Donc aujourd'hui, pour moins que ça, je voudrais qu'on punisse toutes ces personnes qui nous insultent ou qui portent atteinte à notre intégrité physique, mentale, parce que ça fait du mal que d'entendre voir son père couper un morceau et jeter dans des puits, et puis voir quelqu'un qui vous dit de l'autre côté, c'est bien fait. Eh bien, parce que c'est cher, parce que c'est bien fait, parce que ça te touche pas toi, mais ça touche la famille du cheikh et la famille du moudjahed, eh bien, si on attrape un écrit par quelque support que ce soit, tu seras passible de la peine, le maximum 5 ans, mais en récidive, ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison et des amendes.
Une dernière question, Maître Ben Brahim, avant la fin de cette émission. On le disait au tout début, Maître Ben Brahim, vous êtes plus qu'une avocate, vous êtes chercheur en droit de l'histoire. Ce projet de loi qui sera présenté ce samedi, qui criminalise la colonisation française en Algérie, c'est également une première pour
tout
le continent africain.
C'est d'abord une première, mais c'est comme un train. Le premier wagon arrive, avance, et les autres le suivent. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que l'Afrique a pris conscience et que la France a peur. D'ailleurs, en très peu de temps, vous avez vu la décadence de la France, que ce soit en politique, en économie, en facteurs sociaux, c'est vraiment la décadence de la France. Parce que l'Afrique s'est réveillée. Et l'Afrique ne s'est réveillée que parce qu'elle a un leader qui s'appelle l'Algérie. Celui qui a eu la lutte d'indépendance la plus longue, c'est-à-dire 132 ans. On n'a jamais vu.
Et les massacres les plus grands lourds, nombre de massacres.
Toutes les formes de crimes, et on en trouve. Hein. Il y a pas très longtemps, j'ai trouvé encore 2 autres crimes que je vais développer, qu'avait commis la France. Là, nous avons des preuves, c'est pour ça que nous pouvons en parler. Donc aujourd'hui, l'Algérie, c'est vraiment le miroir du monde. Et même si on ne le dit pas quelque part, tous les pays qui ont été colonisés ou qui sont encore dans le carcan du néocolonialisme ou de la pensée coloniale réfléchissent au fond d'eux-mêmes de la même manière. Donc ce texte est un texte de principe pour les peuples libres. Et je suis persuadée qu'il va être largement suivi par nos amis africains et peut-être par d'autres pays, pas spécialement l'Afrique, mais tous ceux qui ont été colonisés. Regardez le Cambodge, par exemple.
En tout cas, l'Algérie a enclenché quelque chose aujourd'hui.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mmh. Tout à fait. Et c'est un texte de principe. parce que c'est un principe que de lutter pour son histoire. Et les autres peuples sont également friands de réveiller cette histoire, de la faire connaître et de lutter pour qu'elle soit connue hors leur continent.
Ça sera la meilleure manière d'aller de l'avant pour nous, par la
suite. Tout à fait, parce que laissez-moi vous dire que ce texte va faire très mal à l'État français et il va réfléchir et sera obligé de revenir vers le raisonnable.
Et ceux qui sont surtout nostalgiques d'une ère révolue.
Bien, écoutez, ceux-là souffrent d'une maladie incurable, ils mourront avec ça, donc on ne peut rien faire pour eux, laissez-les vivre des chimères, mais un jour viendra où leurs enfants diront « Papa, qu'est-ce que tu as fait en Algérie ? Grand-père, qu'est-ce que tu as fait en Algérie ?» Je voudrais bien savoir la réponse qu'ils peuvent donner à leurs petits-enfants, parce qu'ils veulent à tout prix maintenir l'histoire de l'Algérie hors des circuits de l'enseignement, hors des circuits de la connaissance. Un crime se cache. Mais un crime se dévoile en fin de compte.
Ça sera le mot de la fin, Maître Ben Brahim. Merci beaucoup
d'avoir
été notre invité. Vous êtes donc avocate et chercheur en droit de l'histoire. Merci d'avoir été avec nous ce jeudi.
Je vous remercie d'avoir abordé ce sujet très important.
Merci à vous.
Merci.